Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 450. Nous sommes le 7 mars 2024 et aujourd'hui nous sommes trois. Alors vous direz, bon bah voilà, nous sommes trois, mais comme d'habitude. Eh bien non, pas comme d'habitude, parce que si vous avez suivi l'épisode il y a deux semaines, Mike disait qu'il allait partir faire son tour d'Asie. Alors il y est. Mike, si tu nous entends, que tu sois en Chine, en Corée, au Japon ou ailleurs, bah voilà, on te souhaite bien du plaisir. Et donc, nous sommes trois. Alors, la partie à laquelle vous attendez, c'est Baptiste qui est là. Comment vas-tu, Baptiste?
Salut Ben, ça va bien, motivé, la forme, comme d'habitude, motivé pour Niptech.
Ah, bah, ça fait plaisir. Et on a donc un invité qui nous fait un énorme plaisir de revenir dans l'émission. C'est Matt, aka prof du web. Comment vas-tu, Matt?
Ben, ça va très bien. Ça me fait plaisir d'être avec vous et que vous ayez accepté de reporter l'émission qui est habituellement enregistrée à une autre journée que la journée qu'on enregistre. Alors, merci beaucoup d'avoir attendu pour que je puisse y participer.
Alors, qu'est-ce qu'on ferait pas pour t'avoir? C'est vraiment chouette. Et puis, on s'est dit, vu qu'on, maintenant, on a l'habitude hein, pour les fidèles de t'entendre dans Niptech en crossover à Noël. Mais voilà, on va déjà s'intéresser un petit peu à ce que tu fais. T'es plus maintenant, t'as toujours été un peu dans l'écosystème Apple, mais tu faisais d'autres trucs, là, t'es plus là-dedans en ce moment, t'es plus aussi sur YouTube. Bon, alors tout ça, ça nous intéresse, mais ici, il y a un truc dont on parle tout le temps, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, et je me demandais déjà d'entrée de jeu, si toi, ça est en train de te changer la vie en tant que créateur de contenu, ou bien si finalement, pas tant que ça, et peut-être que dans ta vie, mais qu'est-ce que tu utilises? Est-ce qu'il y a déjà des trucs que tu utilises, je parle des ChatGPT, les images, les vidéos, les scripts, les machins?
Oui, ben effectivement, dans le quotidien, alors professionnellement, je pourrais plus m'en passer. On est dans des domaines à nos âges où on a besoin d'écrire beaucoup. Et puis pour moi, ben c'est un peu le nouvel antidote. Je sais pas si vous connaissez l'outil pour corriger les fautes d'orthographe, le mythique antidote qui est fait par les logiciels de marque, je pense, la compagnie, c'est québécois. Et ce correcteur d'orthographe là qui est implanté depuis longtemps dans ma vie parce que le français, c'est plus compliqué que les algorithmes informatiques. Alors, je l'ai remplacé vraiment par des outils d'intelligence artificielle au quotidien, des LLM, qui réécrivent mieux certaines façons, plus simplement, qui m'aident aussi à faire des résumés. Alors ça, je l'utilise professionnellement. J'essaie aussi d'utiliser, d'implanter des nouvelles solutions. Exemple, Amazon Q, qui vient de sortir chez AWS, qui est super intéressant au niveau professionnel.
Alors, c'est quoi?
C'est un LLM, encore une fois, mais plus au niveau en interne que tu utiliserais, exemple, avec, des lois, des articles, des recettes, des processus. Tu l'ingères à l'intérieur de ça, puis après ça, tu peux y poser des questions, ce qui fait que ça t'évite d'avoir des conseillers à appeler et tu te fais ta propre idée de certaines recettes. Tu sais, les sages qu'on a des fois en entreprise, je trouve plus tout le temps la légitimité de les avoir avec mes nouveaux outils. Alors, je les remplace.
La personne que tu connais, que tu sais à qui il faut envoyer l'email et qu'à chaque fois, il va avoir la réponse, cette personne-là.
On a moins en moins besoin avec tous ces outils-là.
C'est cool, ça, ouais.
Ouais, c'est vraiment... Et c'est pas cher. Ça s'intègre avec... ça se fédère avec des Azure AD, des trucs comme ça, tu vois, c'est super cool. Tu peux ingérer plusieurs sites web. Alors, si tu as plusieurs sites web de référence que tu utilises au quotidien, tu peux l'alimenter Amazon Q là-dedans et il va te faire des belles réponses. Et puis souvent sourcer. Il fait encore des erreurs, mais c'est très, très prometteur.
Ça marche comment? Une fois qu'il a les données, comment est-ce qu'il les intègre au modèle? Tu sais,
je suis pas aussi intelligent que ça, mais je sais que ça marche et que ça marche bien. Alors, ça, on l'utilise en interne. Typiquement, on peut l'utiliser aussi, tu sais, pour les centres de renseignement qui se font appeler par des personnes. Ça, c'est des postes où il y a beaucoup de roulement. Alors, c'est vraiment des outils de base d'information qui peut être super intéressant à utiliser. Fait que professionnellement, on essaie de l'implanter. Il y a encore cette crainte beaucoup chez nous. Je sais pas si c'est pareil en Europe. sur l'intelligence artificielle, sur ce qu'elle nous dit, c'est pas bon, de faire attention. Tu sais, c'est un peu les mêmes barrières qu'on avait au début d'Internet, les mêmes barrières qu'on avait au début du cloud, les mêmes barrières, tu sais, les mêmes réflexes qui sont bons, qui sont sains, humains, mais qui sont parfois fatigants quand ça fait plusieurs barrières que tu tombes au fur et à mesure de ta carrière, que tu fais tomber. Alors, ça commence à s'intégrer. Et puis, au niveau professionnel, j'utilise beaucoup.
Quand tu l'utilises, parce que nous, alors, on va profiter, hein, discrétiser un peu, mais on aimerait avoir des chatbots qui sont côté client, donc utilisateur. Et il y a un exemple, alors malheureusement il est qu'en allemand, mais bon, pour ceux qui n'ont pas peur, ça s'appelle Fragesi, donc F-R-A-G-E-S-I, alors .ch, donc c'est Fragesi.ch, et puis c'est, en fait ça s'appelle, c'est l'autorité de surveillance des fondations, donc typiquement les fondations, elles ont un cadre réglementaire, contrairement aux associations, qui est très strict, et donc les gens ont beaucoup de questions. Et ce que je trouve vraiment bien dans ce chatbot, c'est qu'il est capable de dire, toi, c'est un LLM, mais qui est fait pour pas halluciner. Donc, il sait quand il sait pas. Donc, il dit, ça, j'ai pas trouvé dans la base, donc je te réponds pas. Toi, plutôt que de dire, allez, je te prends un truc. Et toi, ton expérience avec Amazon Q, c'est aussi ce genre de truc où ils arrivent à cadrer un peu, disons que si tu...
On peut cadrer, on peut mettre des règles. Ça débute Amazon Q. Alors ouais. Nous aussi, on est en mode expérimentation, mais on a vraiment des visées au niveau professionnel. On utilise aussi beaucoup d'éléments sur AWS pour générer du code. Mais ça aussi, ça débute, mais c'est assez. Ça donne des bons débuts, là, des bons. On appelle ça des copies martyrs. Ça donne des bonnes copies martyrs, ces trucs-là, ouais. Au niveau du code. Les devs aiment bien ça. Et de toute façon, tu sais, si tu regardes un dev traditionnel, il fait beaucoup de Google, il fait beaucoup de GitHub, il recherche du code. Des fois, il fait du copier-coller sans nécessairement tout comprendre pour aller vite. Alors au moins, ça fait une bonne base intéressante. Alors au niveau pro-tech, c'est pas mal ça. Copilote un peu, mais je trouve que Copilote est pas encore autant pertinent que ChatGPT pour le texte, et c'est un peu compliqué à l'intégrer un peu partout. Je le trouve limité, mais on l'a pas en format Windows ni Office, mais on a vraiment le copilote professionnel normal. Mm. Alors, c'est un peu ça rentre fort, ça rentre très, très fort, je trouve. Tu sais, ayant traversé le début du cloud, ayant traversé le début de l'Internet, je suis assez vieux pour ça, le Web 2, les médias sociaux, tous ces trucs-là, ça a pris plus de temps, je trouve, au niveau professionnel que les premiers outils d'IA qui sont en train d'arriver. Je sais pas pour vous si c'est la même réflexion, mais en tous les cas, c'est très rapide.
Ouais. Bon, toi, tu connaissais Amazon Q, Baptiste ou...
Non, j'ai pas. Il y a tellement d'annonces que j'ai pas vu ça passer. Et évidemment, bon, là, c'est un jour, ce sera d'actualité.
Ouais. Bon, mais c'est hyper, hyper intéressant. Merci pour ça. C'est vrai que ça va vite. Donc, je serais curieux de voir, toi, Baptiste, s'il y a des trucs. Moi, typiquement, là, j'ai arrêté mon abonnement à ChatGPT simplement parce qu'il y a d'autres solutions qui vont mieux ou qui sont mieux intégrées. Bref, donc, c'est vrai que je tourne parce qu'à force d'avoir $20 partout. Je me dis merde, à un moment, j'ai pas non plus envie de payer $100 par mois pour avoir accès à tout. Donc, je tourne un peu. Mais c'est cool, j'aime bien, ça fait plaisir. Toi, Baptiste, est-ce que t'en es où là? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dernièrement côté AI ou ça va? Là, c'est un peu plus calme. La dernière fois, tu nous avais parlé de Perplexity, qui est chouette. Mais c'est vrai que je l'aime bien, mais j'ai de la peine à y retourner parce qu'il fait pas forcément tout. Toi, t'es toujours, ton histoire d'amour continue?
Ouais, c'est toujours le seul outil que j'utilise vraiment parce qu'en fait, comme dit, dans le cadre professionnel, je peux pas du tout utiliser ce genre d'outil. Donc, pour la vie de tous les jours, je trouve qu'en fait, le truc le plus pertinent, ça reste Perplexity. Sauf si, voilà, le coup, tu dois écrire une lettre ou ce genre de truc, là, ChatGPT, ça marche toujours bien quand c'est manipuler du texte. Mais en fait, dans les faits, ça m'arrive assez rarement quand même que j'en ai besoin.
Bon, moi, je dois dire quand même un de mes petits badges d'honneur, je suis un des trois utilisateurs de Gemini.
Ah non, donc, on est ensemble.
Oh, t'es le deuxième, le troisième.
Ouais, t'apprends dans la main.
Alors, il faut qu'on trouve le troisième et puis on a l'équipe, quoi. C'est beau.
Je le trouve très pertinent, de plus en plus ces temps. J'attends d'activer la version pro de Gemini. parce qu'on va avoir 2 mois gratuits. Alors j'attends, mais je trouve que la version de base dans les 2 dernières semaines, elle est vraiment super intéressante de Gemini. Je la trouve même à la rigueur des fois équivalente à mon forfait payant chez OpenAI.
Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai plus OpenAI. Effectivement, je me dis, quitte à avoir à payer 20 $, ben moi j'ai 2 TB de données avec. Et puis pour les autres, je vais chercher chez Claude ou chez Perplexity. Mais c'est vrai que voilà, ouais. Bon, bah écoute, c'est intéressant. Bah, je sais pas si vous profitez de rentrer dans les news. On va parler d'Apple hein, avec toi parce que toi t'es quand même. Ah mais parlons un petit peu d'Apple parce que bon, ici on parle de trucs, mais toi c'est pas toujours forcément on est moins dedans que toi. Il y a eu pas mal de nouvelles, dont la grande nouvelle quand même sur l'Apple Vision Pro. Et toi, là-dessus, t'as des projets, hein. Enfin, t'as un projet, tu l'as pas encore, mais...
Ouais, ben, faut que je l'essaye. Et puis, ben, il est disponible seulement aux États-Unis. Alors, on a réussi à convaincre toute la famille qu'il fallait aller aux États-Unis en vacances cette année. et plus précisément à New York. Alors, ça a très bien passé. Et puis, je vais faire tout en sorte pour aller l'essayer. Sur au Apple Store mythique, je regardais mes photos de souvenirs justement de New York, puis j'étais dans la première année que le Apple Store était sorti sur la 5e avenue à New York. Pour ceux qui connaissent, c'est un gros cube en verre. Ouais. C'est incroyable. Et je vais essayer de réserver un essai. Et puis pour voir si ça peut faire. Mon concern par rapport à ça, c'est au niveau de mes lunettes. Pour voir si vraiment j'ai une vision particulière pour voir si ça peut s'adapter. J'ai lu que ça s'adaptait pas à tous les problèmes oculaires qui peuvent exister. Alors je veux voir si ça peut s'adapter à moi. Je vais essayer de voir si je peux envoyer déjà ma prescription ou en tous les cas. On va essayer de faire au maximum pour aller tester le Vision Pro, c'est sûr, à New York.
Et puis toi qui suis un peu plus cet écosystème, tu penses qu'on en est où dans la hype, on va dire, parce que bon, évidemment, les 2 premières semaines, bah, tout le monde en parlait. Maintenant, bah, par effet balancier, on a l'impression que plus personne n'en parle, mais c'est pas, voilà, ça c'est que un peu du ressenti. T'as l'impression qu'il y a que c'est stable, que voilà, il y a une communauté qui se crée, qui a l'air de s'entraider, d'échanger, toi, un petit peu comme ces débuts de nouveaux usages où il faut qu'il y ait une communauté finalement, quoi. Est-ce que tu sens ça?
Ouais, ben moi je fais partie des abonnés à Mac Stories où dans Mac Stories il y a beaucoup de développeurs et puis d'early adopters par rapport à ces technologies là et même si je suis un gars d'Apple, je commence vraiment à être exaspéré d'avoir les nouveaux top 5 des meilleures applications sur Vision Pro à toutes les semaines qui arrivent dans ma boîte mail tellement c'est ça vient encore. Alors il y a beaucoup de trucs intéressants qui sortent. Les premiers tests qu'on peut lire sont intéressants. On voit que ça se cherche un peu comme l'Apple Watch quand c'est sorti, un peu aussi comme l'iPad quand c'est sorti. De manière générale, les usages que je vois sont beaucoup pour remplacer l'iPad pour de la consommation de médias, de d'événements sportifs. Ça va être intéressant. Ça, c'est très, très prometteur. Ça transcende pas encore tout parce qu'évidemment l'écosystème est pas en place, c'est une première version, mais ce que j'entends c'est vraiment tout ce qui est usage, le temps qu'on passait sur les iPads on les passe maintenant avec Vision Pro pour ceux qui l'ont en ce moment et beaucoup dans le culturel, des films, des choses comme ça, c'est intéressant, des articles. Il y en a beaucoup qui ont aussi déporté leur Mac dans Vision Pro, mais étant donné que il y a une fatigue oculaire qui vient avec ça, étant donné que c'est plutôt lourd, ben on peut pas passer une journée de travail avec. Ce qui fait que on comprend dans tout ce que je lis puis tout ce que je suis, on comprend que c'est vraiment au niveau divertissement un peu comme l'iPad. Là, c'est rare. Il y en a qui le font là par conviction là que l'iPad c'est l'outil parfait, mais c'est rare ceux qui sont sur l'iPad à la journée longue pour travailler. Ça ressemble un peu à ça aux usages pour le moment. Puis évidemment, ben il y a toutes sortes de dérives qu'on a pu voir. Il y a des premières applications de tout doux, hein, les évidemment la productivité s'empare de tous les appareils. Ouais. Alors t'as des premières applications de tout doux où tu peux mettre tes tout doux aux bons endroits, tu vois, quand tu fais quand t'as une tout doux pour ton épicerie, tu la mets dans la cuisine. Quand t'as une tout doux pour des minuteurs pour faire des exercices, tu les mets sur les appareils d'exercice. Alors il y a des dérives qui commencent à faire et tu te dis ça va ressembler à quoi l'avenir avec cet appareil-là, avec, parce que le marché de la publicité va aussi arriver à un moment donné sur ces appareils-là. Alors, tu vas avoir des banners partout, des minuteries partout. Ça va peut-être gâcher un peu l'expérience.
Ah, mais ouais, c'est vrai, c'est juste, c'est, écoute, ton frigo, il est gratuit si tu portes 8 heures par jour l'Apple Vision Pro et que tu nous laisses mettre de la pub.
C'est sûr qu'il va y arriver des trucs comme ça.
Ouais,
mais
bien.
Il y a des trucs intéressants qui en sortent là au niveau de la maison, au niveau de certaines applications là qu'on peut voir, mais c'est pas transcendant encore. Tu vois que ça débute. Puis évidemment, le matériel a l'air vraiment cool au niveau des composants, mais l'écosystème est pas encore à plein. Mais il y a quand même plusieurs centaines d'applications déjà sur le store du Vision Pro là. C'est quand même beaucoup plus que ce qu'a jamais connu, exemple, BlackBerry.
Ouais, c'est vrai. Ça remet des choses en perspective. Ouais, 6000, c'est pas beaucoup, machin. Je vous souviens de l'époque où ils disaient tous les ans, oh, on a passé la centaine de milliers d'applications sur l'App Store. Vous vous souvenez de cette époque-là?
Ouais,
c'est vrai que BlackBerry, ils avaient probablement jamais ce nombre-là.
Ouais. Mais en gros, c'était su et connu, ça a été communiqué comme ça, c'est une première version, ils l'ont nommé Pro exprès pour que les pros et les développeurs puissent commencer à l'utiliser. Les usages vont arriver dans les prochaines années, puis peut-être que ça va être encore une fois détourné, les premiers usages de l'Apple Watch, c'est plus les usages qu'on a maintenant, c'est plus la santé, le sport, au début c'était pas ça, au début, je me rappelle, il y avait toutes sortes d'applications, tu pouvais écouter YouTube sur ta montre, mais qui écoutait YouTube sur ta montre au début, tu sais, alors évidemment ça va évoluer, c'est sûr.
Ok. Baptiste, est-ce qu'il y a des nouvelles de l'écosystème Apple qui t'intéressent? Faut qu'on profite. Parce que d'habitude, on a notre fanboy. Bon, ok, on a Mike. Mais là, on a mieux, quoi, encore. Donc, ouais.
Non, ce que je trouvais intéressant, c'était la news comme quoi ils abandonnaient leur projet de voiture. Donc, on sait tous, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'ils avaient le projet de faire une voiture. On sait jamais trop où ça allait. Je dirais à peu près tous les deux ans, hein, Matt, il y avait une news comme quoi ils avaient complètement pivoté et qu'ils étaient passés de complètement autonome à plus complètement autonome et juste une voiture normale. Et puis après, c'était complètement autonome. Après, ils voulaient faire une voiture. En fait, c'était pas une voiture, mais c'était du software pour d'autres constructeurs de voitures. Enfin, ça avait beaucoup évolué. Et maintenant, on apprend qu'ils ont abandonné. Et pour l'anecdote, j'avais fait une interview pour bosser sur la voiture autonome. Ils avaient une équipe à Zurich. Voilà, on sait ce que ça aurait donné, quoi.
La bonne nouvelle pour Matt, c'est que comme ça fait des années qu'il économisait pour s'acheter la Apple Car, il pourra s'acheter une poignée d'Apple Vision Pro, du coup, donc ça, c'est bon. Non, ça t'a surpris ou c'est quelque chose de nouveau dans l'écosystème et la communauté? C'est un truc que les gens attendaient ou bien tout le monde s'en foutait un peu de ce projet?
Il n'y avait pas d'effervescence. Même dans la communauté des développeurs, il n'y avait pas une grosse effervescence de pour développer des trucs sur Apple CarPlay en ce moment. L'écosystème existant, hein, en ce moment, là, faut pas se le cacher, là. Il existe déjà une plateforme pour les véhicules Apple. Ça cogne pas aux portes, pour aller en développer. Les applications qu'il y a sont déjà bien. On n'a pas des usages transcendants non plus. À part les propriétaires de Tesla qui ont des usages transcendants dans un véhicule, hein, vous connaissez la blague, vous avez sûrement un ami qui a une Tesla et qui vous a montré qu'il pouvait jouer à Mario Kart dans sa Tesla et écouter Netflix, mais au niveau de l'automobile, ça sert absolument à rien d'avoir d'avoir autant de tablettes là-dessus, à part la conduite autonome.
Mais Apple CarPlay, par rapport à CarPlay, les gens l'utilisent vachement, non? Enfin, je sais pas, genre moi, quand je vois, genre si...
Ouais.
Maintenant, tu vois, chaque fois que je vais dans une voiture, naturellement, tu regardes si t'as CarPlay ou la version d'Android et tu utilises ça, tu vois, personne... Enfin.
Ouais.
Tous les gens qui peuvent, ils utilisent ça maintenant. Donc, certes, c'est le genre de choses dont les gens parlent pas vraiment, mais que tout le monde utilise, quoi.
Non. Puis les applications de base sont suffisantes.
Ouais, oui, mais c'est ça le truc, effectivement, ouais.
Les applications de base sont suffisantes. Il y avait le fait que tu avais juste Apple Music, après ça, t'as pu avoir Spotify. Il y avait le fait que tu avais juste Apple Maps, après ça, t'as pu avoir Google Maps. Mais en dehors de ça, une fois que tu arrives à avoir tes applications, tes habitudes, tu sais, il n'y a pas des choses transcendantes que tu peux faire. Tu sais, installer Apple Arcade pour jouer à des jeux sur... Non, c'est pas surprenant. Mais c'est un vieux projet, hein, l'Apple Car... Steve Jobs qui avait initié ça à l'époque, ce qui fait que tu peux te rendre compte à quel point c'est vieux. L'idée, c'était d'avoir du Apple partout, de la maison au réveil jusque aller au bureau, jusque dans les transports, c'est d'avoir du Apple partout. C'est pas surprenant. Il y a une rationalisation qui s'est faite dans les marques en Amérique du Nord depuis 20-30 ans maintenant. Il y a beaucoup de compagnies qui sont fait racheter, qui ont disparu. des Pontiac, des Lincoln, c'est des grosses marques mythiques qui ont disparu. Il y a une grosse rationalisation en termes des compagnies. Le marché automobile américain est pas un des plus intéressants en termes de nouveautés, à part Tesla. Et puis, ils étaient... Tim Cook, il croyait plus ou moins, hein, il y a quelques années, il y avait des débuts de volonté de racheter Tesla, puis Tim Cook, quand avant même que ça aille trop loin, a coupé l'herbe sous le pied, disant, si on le fait, on va le faire nous-mêmes. Ce qui fait que ça a toujours vivoté un peu, puis tu voyais qu'il n'y avait pas vraiment de débouché dans ça.
Mais c'est marrant en termes de culture, de société.
Ouais.
Apple qui est vraiment connu pour être quand même très, très focus, hein, justement pas avoir des gammes de produits, tu sais, où on se perd, où tu en as 27 à la Dell, où tu sais plus, franchement, quelqu'un qui comprend la gamme de produits Dell, je sais pas quoi, il est, c'est un génie, quoi. Et donc, c'est vrai que c'était toujours marrant, moi j'ai jamais cru non plus, hein, je faisais partie de ces gens qui disaient, non mais c'est un mythe, et c'est impossible, je croyais pas une seconde qu'ils travaillaient dessus. Déjà, d'une part, se dire qu'ils sont bons pour plus ou moins garder le secret, même si ça se savait un peu. Et puis, d'autre part, c'est qu'ils ont quand même... Peut-être qu'il y a d'autres projets comme ça, un peu... Il y en a d'autres, tu crois? Il y a des trucs un peu pas attendus sur lesquels ils bossent? Tu connais des
non, équivalents? Il y a tout le temps, on a tout le temps entendu parler de la télé Apple. Alors, l'Apple télé, grâce aux nouvelles normes européennes qui sont sorties, on voit la part de marché de l'Apple TV déjà en Europe. Là, c'est 1 million d'utilisateurs à la grandeur de l'Europe, ce qui fait que c'est pas un gros marché potentiel. En Amérique du Nord, ça pourrait être intéressant. Fait que l'Apple TV, mais la vraie télé, l'écran, cinéma, maison, pourrait arriver, mais j'y crois de moins en moins avec le Vision Pro. Tu vois, avec le Vision Pro, t'as un écran, c'est tout ce que tu vois en avant de toi, c'est encore meilleur que n'importe quelle télé. J'y crois plus ou moins. Il y a d'aller de plus en plus dans l'audio. Rachat potentiel de Sonos, ça c'est dans les rumeurs qui est arrivé pour être plus dans le haut de qualité. Ils le sont avec le HomePod, mais Sonos a un écosystème plus grand que ce qui existe chez Apple présentement. C'est vraiment les seules rumeurs là qui persistent en ce moment. D'y aller de plus en plus dans les services, c'est ça vraiment le fer de lance en ce moment. Apple TV+, aller dans le sport, ils sont impliqués dans la MLS, c'est une ligue de football chez nous, le football européen comme vous connaissez. Ils vont probablement avoir une participation dans la MLB et d'autres sports majeurs en Amérique du Nord. Alors vraiment dans le divertissement, c'est là où ils investissent beaucoup en ce moment, c'est ce qu'on voit en tous les cas.
OK.
Ils essaient, c'est normal, ils essaient de se détacher le plus en plus du iPhone. L'iPhone, c'est une grosse part de cash chez Apple, mais il faut diversifier. Ils ont réussi, soit dit en passant, l'iPad est une bonne part, le Mac, c'est une bonne part. Les services, ça grossit de plus en plus. Ça commence à être plus que juste du téléphone chez Apple. C'est intéressant.
Bon, et puis le Mac, alors moi, ce qui m'a halluciné, c'est que c'est vraiment une catégorie qu'on disait moribonde et inintéressante et qu'il fallait arrêter, c'était ça. Puis avec leur nouvelle ligne, d'ailleurs, qu'ils ont encore mise à jour récemment, ils ont réveillé l'intérêt et ça, c'est quand même assez fort avec les processeurs, etc. Mais j'ai une autre question, alors peut-être pour terminer, qui est un des gros débats du moment, mais je suis curieux d'avoir la vision plus justement de la communauté, de quelqu'un qui connaît le pouls, toi, pas juste nous, le côté un peu plus média, mais plus les utilisateurs. C'est tout le débat avec Apple, Spotify, Apple, Epic, encore aujourd'hui, hein, Epic qui a été, ils ont été retirés de l'App Store, si j'ai bien compris, la Commission européenne qui arrive en disant, c'est pile le bon moment pour eux parce qu'ils cherchent à faire un exemple pour leur nouveau gatekeeper. Donc, je pense qu'ils devaient avoir le champagne et puis la petite danse en se disant cool. Mais comment c'est vécu? Parce que c'est vrai que il y a quand même là, en termes de positionnement, quelque chose d'assez nouveau pour moi où il y a quand même, c'est vrai, une des vraies questions de se dire, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas un peu justement d'abus? Est-ce que toi, tu sens que dans la communauté, c'est aussi vécu comme ça ou bien qu'ils ont encore un soutien de la base, tu vois? Ou est-ce que les gens ils disent, non, mais là, ils sont trop corporate, c'est quoi ce délire?
Je pense pas que je vais avoir un son de cloche très réaliste. Moi, je suis plutôt du côté nord-américain où c'est plus libertarien, où on devrait laisser faire les entreprises, l'autorégulation. Alors, c'est peut-être pas le meilleur pouls possible, mais c'est pas des choses qu'on discute. En tout cas, moi, je vois pas beaucoup. Peut-être que ça va aussi avec mon centre d'intérêt, mais on n'en discute pas vraiment. Epic Game, si tu veux jouer à Fortnite, ça se joue sur une PlayStation 5, ça se joue sur un ordinateur, mais ça se joue pas nécessairement sur un iPhone. Il y avait une. Alors, et puis le fait que Epic s'est fait sortir de son compte développeur par Apple et puis qu'ils vont se faire appeler par les Européens pour s'expliquer, c'est des trucs qui vont prendre des mois encore, des siècles. Je sais pas si ça va vraiment avoir un réel impact. Mais ce qui est intéressant,
c'est pas une discussion, quoi. C'est pas que les gens ils disent ah ouais, mais bon, quand même Spotify, ils ont raison. Enfin, dans ce que tu vois, de ce que tu observes, la communauté, c'est voilà, c'est le côté business, mais qui intéresse pas vraiment. Qui ne crée pas les passions, quoi.
Okay. C'est des démarches commerciales, j'ai l'impression. Mais en tous les cas, c'est ce que je vois, c'est tout, là. C'est pas forcément pour le bien de la communauté. En tous les cas, c'est pas perçu comme ça dans mon entourage.
OK. Baptiste, est-ce qu'il y a encore des choses? Il faut qu'on profite, on a dit. Ou ailleurs. Hein,
Pas vraiment, non. C'est intéressant l'aspect que finalement les Nord-Américains ils s'en foutent un petit peu des Européens qui sont avec le DMA et ils essayent de réguler machin. Et ce qui est intéressant, peut-être le truc par rapport à ça, c'est que les anciens changements, tu vois, avec le RGPD, tout, il y a quand même des choses qui sont un peu percolées vers les États-Unis et tout. Là, il y a rien. C'est vraiment juste, ok, les Européens vous le faites de votre côté. On n'aime pas, mais on est obligé de le faire, alors on le fait. Et tout le reste n'est pas concerné. Même en Suisse, je me suis dit, en Suisse, on va avoir les mêmes changements. Il y a pas. Non, c'est pas considéré. Il y aura aucun des changements des App Store et tout qui seront appliqués même en Suisse, quoi.
Ouais, il y a des trucs qu'on n'a pas. Puis, tu sais, d'avoir un nouvel App Store possible dans ton iPhone, dans ton Apple Watch, en bout de ligne, ça intéresse à une fraction de geeks et de nerds, probablement. Tu sais, évidemment.
Donc si ça vous intéresse, vous avez compris hein, ce que ça veut dire.
Non mais je veux pas diminuer ça. C'est intéressant philosophiquement, mais en bout de ligne, est-ce que ça change? Puis on le voit. Regarde, on a passé la loi 25 au Québec sur un équivalent du RGPD qu'il peut avoir en Europe. Et puis les entreprises, ça fait 2 ans qu'ils le savent. Il y en a que 3% qui se sont conformés. Et sur le 3% qui se sont conformés d'entreprises, il y en a que c'est du fake. T'sais, c'est de la fausse. Ils font exprès de mettre accepter les cookies sur leur site, mais en bout de ligne en arrière, ils font n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément l'écosystème gouvernemental pour appliquer tout ça. Comme peuvent avoir l'Europe, probablement les vieux pays. Non, on appelle les vieux pays. C'est pas pour rien parce que tu sais, il y a tout un écosystème qui s'est mis en place en France. Il y a beaucoup de fonctionnaires pour vérifier les régulations. Chaque loi qu'on met, ça prend nécessairement quelqu'un pour le vérifier. Mais on n'a pas tout ça. Tu vois, ça fait maintenant 2 ans qu'on entend parler de la loi 25. Juste 3% qui sont conformés. Puis il se passera rien. Il se passera pas grand chose pour ça. À part peut-être au fur et à mesure tout ce qui est les actes de leak des entreprises ou tu sais quand une entreprise maintenant elle se fait pirater ben elle est obligée de le dire. Encore là, comment on fait pour vérifier l'attribution d'un piratage, d'un leak en 2024? C'est compliqué. Bref, on est un peu dans le néant par rapport à toutes les législations européennes. On regarde ça aller, c'est super intéressant, mais concrètement pour l'appliquer pour nous dans notre contexte, c'est un peu complexe.
Et puis, alors, peut-être, vu qu'on parle du côté un peu culturel, il y a peut-être l'effet inverse qui peut arriver par rapport aux États-Unis, en tout cas pour nous, mais je serais curieux de voir l'avis plutôt canadien. C'est toutes les questions, toi, qu'il y a eu autour de Gemini et puis du côté culturel, enfin, tout un peu le culture war qui, chez nous, alors, peut-être que je ne suis pas dans les bons cercles, mais a un peu le même effet que tu nous dis, quoi. Les gens, ici, ils disent, ouais, bon, bah, ok, quoi, on s'en fout un peu, quoi. C'est ok, les résultats sont moins bons, donc changer, ça nous. Mais ils sont pas en train de se dire, ah, scandale, toi, ou.
C'est ça, de laver le cerveau.
Ça réveille zéro passion, quoi. Les gens, ils disent, bon, bah, j'utilise Claude ou je vais chez Perplexity. Toi, c'est très neutre. Comme la même chose que tu me disais là, est-ce que au Québec, c'est plus chaud? Est-ce que ça, c'est plutôt côté américain? Ou plutôt côté européen, ou bien tout ça, même c'est un peu fake de toute manière, même au Canada, toi, ça intéresse 3 personnes qui font du bruit, mais pas vraiment les autres.
Ouais, ça ressemble à ta dernière phrase. Ça ressemble un peu à ça. Malheureusement, tu sais, typiquement, le fait d'avoir des intelligences artificielles qui sont genrées, qui sont entraînées sur des modèles qui, bon, ben, étaient peut-être pas les meilleurs. On n'en entend pas vraiment parler. On n'a peut-être pas le niveau de maturité numérique très élevé non plus. C'est à savoir, le taux d'automatisation au Québec est de 25%. En Allemagne, c'est 75%. C'est quand même révélateur d'une certaine culture numérique qu'on n'a peut-être pas par rapport à l'Europe aussi.
Qu'est-ce que tu mettrais là-dedans? Je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que c'est le taux d'automatisation.
Le taux d'automatisation, c'est en fait le fait que les entreprises se sont modernisées. Ont amélioré leur chaîne d'approvisionnement, ont numérisé leur parcours client, par exemple, de l'achat jusqu'à la livraison. Ben, on a un très, très faible taux au Québec par rapport à l'Allemagne. On en parle souvent, ce chiffre-là sort souvent pour justement motiver les entreprises. C'est ce qui me révèle peut-être le manque de maturité numérique qu'on peut avoir et de sensibilité par rapport à l'Europe, par rapport à ces lois-là. C'est peut-être juste qu'on va s'en rendre compte dans 15-20 ans. Peut-être que c'est juste ça.
c'est vrai, parce qu'en Allemagne, il y a ce concept, mais j'ai l'impression que c'est que allemand. Mais je ne sais pas si tu me diras si c'est arrivé. C'est l'industrie 4.0. C'est aussi comme ça que tu utilises, parce qu'en général, les gens qui en parlent vraiment, si je cherche des ressources là-dedans, c'est toujours des Allemands. Donc, effectivement, j'ai l'impression que c'est un gros sujet pour eux. Et c'est vrai qu'elle est cool. Hein. Longtemps que je ne me suis pas intéressé, mais... Toutes ces questions de chaîne,
un parcours numérique complet, un parcours numérique complet, tu sais, de la commande jusqu'à même la facturation, le paiement, tout ça, les entreprises sont pas encore là. Ce qui reflète exactement ta question, Ben, c'est comment c'est perçu les algorithmes, le fait qu'ils soient bien entraînés sur des bonnes personnes, sur des bons jeux de données, qu'ils nous répondent comme il faut, que, exemple, Gemini, ils fassent des soldats allemands, noirs et japonais. C'est sorti dans un groupuscule très allumé numérique, mais c'est sûr que c'est pas des discussions qui peuvent se passer autour d'un café au Tim Hortons chez nous, là.
Et puis, allez, on va essayer de prendre les mines. À un moment que Baptiste, il y a un truc là-dessus, mais j'ai un autre sujet qui chez nous. Alors, bon, bah toi, alors je suis au gouvernement. Ce que je dis ici n'engage que moi en tant que rien du tout, hein, parce que voilà, tout le monde s'en fout dans le gouvernement de ce que j'ai à dire, que ce soit bien posé. Mais il y a un gros débat sur la souveraineté numérique, parce que. Ouais. On va chez Microsoft et on va chez Amazon et c'est pas normal. Il faudrait une société suisse, tu vois, parce que déjà c'est évident qu'on est des pives en informatique, donc c'est clair qu'une société suisse elle va être capable. Je vais me faire des amis là-dessus, mais je suis pas un fan, tout ça pour dire, de ce concept de souveraineté numérique, parce que un peu pour ce que tu disais avant, il y a évidemment faut faire attention, mais ces données, et puis évidemment faut encadrer. Et donc, je suis assez pour avoir, par exemple, de pouvoir dire, je veux que le serveur il soit localisé, quitte à dégrader mon expérience. Ça, je comprends. Et puis après, d'avoir un choix de dire, je veux favoriser des sociétés locales, je comprends aussi. Mais ce côté souveraineté numérique, je trouve que ça dessert tout le monde. C'est un nivellement vers le bas plutôt qu'autre chose. Est-ce que au Canada, au Québec, il y a aussi un gros, enfin, il y a des tensions comme ça, ou bien c'est beaucoup plus orienté marché?
Ah ben politiquement c'est ramassé au niveau d'ailleurs c'est une réaction à la pandémie. Pendant la pandémie on a trouvé un petit peu bête que notre chaîne d'approvisionnement alimentaire était typiquement du sud. On a fait c'est drôle, puis c'est compliqué pendant une pandémie quand les frontières sont fermées. Alors on s'est rendu compte d'un certain truc, et puis au niveau numérique ça avait déjà commencé. Faut des data centers, faut que ça soit fait au Québec. Mais après ça tu dis, ben, c'est super, les amis, mais vos racks, vos serveurs, vous mettez des... C'est quoi la marque que vous mettez? Ben, du Intel, c'est du Dell, c'est des... OK. Puis vos firewalls, vous mettez quoi? Ah ben, des firewalls, on met du de telle marque américaine, des trucs... Ben, puis TBD, c'est quoi? C'est du Oracle. Ben, qu'est-ce qui est québécois, finalement, à part le local? Rien. Faudrait avoir tout au complet pour que ça soit vraiment made in. Puis... Tu sais, les Américains, il faudrait qu'il y ait quelque chose de bien, ou même les Japonais, il faudrait qu'il y ait quelque chose de bien. Nous, en Europe, vous avez pris l'alimentation. Il n'y a rien de mieux que l'alimentation. Mais ils font pas du gruyère aux États-Unis, puis ils font pas comme, ah non, il faudrait du gruyère américain pour que ce soit vraiment... c'est de la régionalisation, mais typiquement, oui, il s'est ramassé politiquement pour avoir des choses faites au Québec. Mais comme tu dis, moi j'ai les mêmes feelings que toi, tu sais, c'est nivelé par le bas. Essayons d'aller dans nos forces. À Montréal, on a une grosse force au niveau de l'intelligence artificielle, nos universités. Ben on l'a pas inventé, c'est historique, ça fait longtemps que les universités ont embarqué là-dedans. Mais on n'a pas les GPU, on n'a pas le matériel pour faire, tu sais, ça prend du matériel d'un autre pays pour le faire rouler. Alors c'est un peu complexe tout ça, mais oui, il faudrait avoir une certaine souveraineté. À tout le moins, il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'il faut avoir une souveraineté sur les données. Alors que les données soient géolocalisées au Canada et au Québec, ben c'est déjà ça, même si c'est dans un data center de Microsoft ou d'AWS ou de Google, mais au moins c'est au Québec.
Ouais. Bon, nous d'ailleurs on avait eu un partenariat avec, on a toujours un partenariat avec une boîte suisse qui est Infomaniac et qui met l'accent là-dessus, toi, sur voilà comment on gère vos données, voilà toi le côté éthique, le côté transparence, mais ça je comprends, ça c'est des valeurs, mais de dire ça doit être, c'est ça, je suis vraiment d'accord avec toi, de dire ça doit être chez nous, ça doit être suisse, c'est un argument que je vois très souvent et chaque fois d'ailleurs parce que qu'est-ce qui se passe tout le temps, c'est que l'armée annonce qu'elle va utiliser Microsoft parce que nous on utilise ça et puis chaque fois on a le même débat qui revient et ouais. Mais bon, c'est intéressant de tâter un peu le terrain. Après, de nouveau, ni toi ni moi on est représentatif. Baptiste, toi t'es dans la même bataille souveraineté numérique. En France, c'est assez chaud aussi, donc donne-nous la vision.
Oui, en France, il y a aussi cet aspect-là en France et je dirais que c'est tu vois, en Suisse, il y a un peu cet aspect où, bon, on est quand même suisse. Je dirais qu'il y a quand même une certaine, tu vois, il y a quand même un certain pragmatisme que tu restes un petit pays. Mais en France, il y a pas ça. En France, il y a ça.
Ah non.
C'est l'inverse, tu vois, c'est où tu veux te croire que t'es un plus grand pays que tu ne l'es. C'est un peu ça le souci. Et tu vois, par exemple, il y a cet exemple classique, c'est le cloud souverain. C'était une fois c'était Orange qui le faisait. Une fois c'était, Thales, justement, ces entreprises qui sont dans la défense. Ouais. Enfin bref, à chaque fois ça a fail parce que ça peut pas marcher. Tu vois, t'en as trois dans le monde aujourd'hui. Tu en as peut-être quatre avec les Chinois, mais tu vois, il y a pas beaucoup de cloud. Quand est-ce que tu veux que de gros cloud, tu as de grosses entreprises, qui donnent des services.
Chez nous, Alibaba est un prestataire. Alibaba est un prestataire, si je me trompe pas, dans les offres d'appel qu'il y avait eu, ils sont. Enfin, du gouvernement, ils ont évidemment pas pris qu'un seul cloud parce que tu as vu une ordonnance, et donc je trouve bien. Évidemment, alors tu vas pas mettre n'importe quelle donnée, mais pas plus qu'aux États-Unis qu'avec des prestataires d'ailleurs. Effectivement, tu fais gaffe quoi. D'ailleurs, on a un gros projet qui va partir sur la santé. Là, ça va être intéressant aussi de voir l'appel d'offres parce que là, tu comprends les enjeux, mais de nouveau, c'est plus le où que le qui.
C'est ça. Ouais. Parce qu'il y a même pas la capacité en fait. On vit dans un monde où les technologies elles sont tellement compliquées. Que t'as quelques entreprises qui savent le faire, les semi-conducteurs, les GPU. T'as une entreprise qui sait faire des GPU. T'as une entreprise qui sait faire le design des GPU. T'as une entreprise dans le monde qui sait graver des GPU. T'as une entreprise dans le monde qui sait faire les machines pour graver. Enfin, c'est, et tu dis,
attention, il y a sûrement
la version française et la version suisse et la version québécoise. Enfin, je pense que c'est un peu.
En même temps, là, t'amènes quelque chose d'intéressant. L'ingérence étrangère, parce qu'on en parle beaucoup d'ingérence étrangère, mais on se soucie d'ingérence étrangère chinoise. Tu sais, c'est vraiment, en ce moment, c'est le talk of the town au Canada. Achetez pas des trucs chinois, des composants faits là en Chine. Alibaba, vous hébergez rien là-dedans. Tu fais, OK, c'est cool. Pourquoi on s'est pas questionné sur les Américains avec autant d'années où on a su que finalement, ils exploitaient les données? Mais on peut comprendre, et c'est super intéressant philosophiquement de se pencher là-dessus. Après ça, faut avoir le moyen de ses ambitions par rapport à toutes ces législations-là et ces vœux pieux. Et tu sais, la France, c'est très drôle parce que une fois, j'avais vu un reportage, il y avait pas beaucoup de pays qui avaient leur propre système d'exploitation. La France avait fait son système d'exploitation.
une dérivation de Linux probablement qui était.
Et Cuba aussi avait fait son système d'exploitation.
J'espère qu'ils étaient compatibles les deux, quoi. Bon, en tout cas, si vous êtes des fans de souveraineté numérique et que vous avez envoyé les hate mails à info@niptech.com, on sera très heureux de comprendre l'étendue de notre ignorance et de nos erreurs. Mais en tout cas, on a l'air assez d'accord.
Et peut-être par rapport à ça, juste, est-ce que au Canada, il y a aussi cette histoire avec TikTok ou pas du tout? Parce que ça fait partie de ces débats. Tu vois, il y a des débats qui ont été qui ont commencé aux États-Unis et qui sont venus en Europe. Tu vois, par exemple, les modems Huawei. Au début, c'était les Américains qui ont poussé pour les bannir. Maintenant, globalement, tu es en Europe. Oh, je sais qu'en Allemagne, par exemple, ils les ont enlevés. En France aussi, ils les ont enlevés. En tout cas, des infrastructures vraiment critiques. Donc, c'est quelque chose qui a marché. TikTok, c'est pas quelque chose dont j'entends parler. Tu vois, c'est vraiment que aux États-Unis. En France, personne dirait, il faut bannir TikTok. Alors que, en toute franchise, d'un point de vue, objectivement, sécurité et tout, c'est de loin le truc chinois qu'il faudrait bannir en premier.
Totalement, mais ici, les fonctionnaires, tout ça, ça a été éliminé, là, des postes informatiques, des téléphones et tout ça. Fait que oui.
Qu'est-ce que tu irais foutre TikTok? Pourquoi tu irais foutre TikTok? C'est sur ton téléphone professionnel, quoi. Déjà, à la base, tu vois. Moi, je dis, mais même Facebook ou à la limite, toi.
Ben, au niveau de TikTok, là, tu sais, faut comprendre que les fonctionnaires s'évertuent à essayer de communiquer comme il faut à la population. Ça fait partie de leur. Ouais. Ça fait partie de. Et puis, la population est sur TikTok. Alors, je peux comprendre qu'il y a des fonctionnaires qui veulent essayer de communiquer à la population là où elle est.
OK. Si c'est professionnel comme ça, je suis d'accord. Ouais.
Ouais.
Mais le fait d'avoir besoin, sinon, pour le fonctionnaire moyen, je me prends comme exemple. Je veux dire, il y a plein de trucs.
Je peux comprendre, mais les politiciens, par exemple. Pour rejoindre un député, pour rejoindre les personnes, il y a besoin d'avoir les outils pour. Et puis malheureusement, tout le monde est sur TikTok. Alors il y a besoin nécessairement de TikTok. Je peux comprendre que certains aient besoin.
Est-ce que tu es sur TikTok en tant que créateur?
Absolument pas. Non, je me connais assez. J'ai essayé TikTok. Je me suis perdu 4 heures en cherchant juste un truc sur une application parce que là, il y avait des hamsters mignons. Après ça, il y a eu des cochons mignons. Après ça, il y a eu du bébé mignon. Après ça, il y a eu des recettes de pizza avec beaucoup de fromage. Et 3 heures après, j'ai fait merde. J'ai pas trouvé ce que je cherchais. J'ai fait je désinstalle ça. Allez. Hop.
Ouais. Ok. Bon, en tout cas, je sais pas si on a fait un peu le tour. Alors d'habitude, c'est qu'on passe à la partie inspiration. Je sais pas si TikTok c'est notre planche vers la partie inspiration. Je te laisse réfléchir pendant que on parle de ce qu'on avait. Si tu as des choses que tu veux nous partager, un livre, un film, une série, le truc qui t'a plu récemment. Moi, là, j'écoute un livre, alors que j'ai essayé d'en parler un peu autour de moi, mes collègues et tout ça. C'est pas le thème qui fonctionne le mieux. Le livre, ça s'appelle Determined, de quelqu'un qui s'appelle Monsieur Sapolsky. Alors, vous le connaissez peut-être, je suis sûr qu'on en a parlé dans Niptech. Je n'ai pas regardé, il faudra que je fasse. C'est quelqu'un qui a écrit des bouquins sur le stress. Il a travaillé énormément en Afrique. Il a observé beaucoup le monde des babouins. Et donc voilà, il se connaît sur le stress, mais le livre qu'il a écrit là, c'est sur le libre arbitre. Et c'est un livre qui explique pourquoi finalement le libre arbitre n'existe pas et que tout en nous peut être compris, expliqué par un mélange de. Alors c'est pas les gènes, hein, parce qu'il est très clair sur le fait que les gènes en soi ça te détermine assez peu, mais les gènes et l'épigénétique et la culture. Et le fait ce que ça fait sur les hormones, sur les connexions et tout ça, donc ce système hyper complet, et bien finalement ça fait qu'on si on n'est pas prévisible, on est quand même déterminé. Et c'est une discussion que je trouve vraiment intéressante sur si vous voulez comprendre ou vous poser des questions sur qui on est, pourquoi on est comme on est, et puis comment juger les autres aussi. C'est pas que ça excuse, hein, et c'est peut-être le truc important où il dit c'est le même pas que quand on est passé d'un monde très religieux à un monde moins religieux. Les gens disaient plus de religion, donc maintenant vous allez aller dehors, vous allez tuer des gens parce que voilà, il y a plus de Dieu, donc c'est la fête. Et puis on voit que les pays nordiques qui sont finalement très peu religieux, y a pas plus de problèmes qu'ailleurs, voire moins. Et donc c'est une discussion qui moi me fascine, mais de nouveau, pour l'avoir testé, elle fascine pas tout le monde, je m'en rends bien compte. Donc, mais en tout cas, si vous voulez lire, alors c'est pas un livre facile, c'est pas le livre qu'on écoute comme ça d'un trait, mais quand même tout à fait recommandé, Determined, de notre ami Robert Sapolsky. 4,5 allez sur Amazon, donc sur, avec 600 recommandations, c'est quand même pas trop mal, même si on peut pas faire confiance aux recommandations.
Non,
en le disant, je me disais, mais tu racontes la merde, mais voilà, mais bref, quand même, j'essaye de trouver des arguments pour motiver. Baptiste, toi, tu nous as aussi mis quelque chose. Hein.
Ouais, alors, c'est rien à voir, c'est beaucoup plus terre à terre, très terre à terre. Non, c'est ce genre de bouquin, tu sais, que tu vois un peu passer. Un peu par-ci, par-là, tu vois. Et quand on, en général, quand j'entends parler de quelque chose assez souvent, c'est que c'est bon et que c'est un peu, et même si c'est pas le meilleur, comme tout le monde l'a, comme beaucoup de gens l'ont lu, ça donne un peu des bases communes et ça vaut le coup d'être lu. Et dans ce cas-là, c'est en plus, c'est très très bon. Ça s'appelle, Salt Fat, c'est en anglais, mais, sel, graisse, acide et chaleur. Et en fait, c'est pas un bouquin de cuisine, c'est finalement un méta livre de cuisine qui t'explique en fait quelles sont les bases de la cuisine et comment bien cuisiner, quels sont les trucs vraiment de base auxquels il faut penser pour bien cuisiner. C'est un peu le tutoriel, tu sais. Finalement, ouais, c'est un peu le tutoriel comment bien cuisiner. Et c'est vraiment excellent. Je trouve que c'est vraiment bien expliqué, c'est très didactique. L'auteur, elle fait un bon mélange de. Tu vois, c'est pas trop scientifique, c'est pas trop culturel ou c'est comme ça que ça a été fait pendant des millénaires, alors c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est pratique, mais pas trop en « ah, ben, tu vois, la moitié des trucs, c'est des recettes ». C'est vraiment un bon mix.
Et qu'as-tu pris alors quel est un conseil que tu as lu que nous devrions adopter qui n'était pas évident, toi, genre le truc de dire « il ne faut pas boire l'huile de palme à la bouteille ». Bon, ok, mais est-ce qu'il y a des trucs…
Ça te fait aborder les choses, ça te fait comprendre les choses. Tu vois, par exemple, ça te fait comprendre que le sel, c'est pas une épice, tu vois, c'est pas un truc que tu mets un petit peu pour ajouter du goût, c'est vraiment un élément de base pour que la nourriture, elle ait du goût, tu vois. Que si tu mets pas assez de sel, que c'est vraiment que pour ton corps, ça va pas avoir assez de goût. Tu vois, que biologiquement, t'en as besoin. De la même manière que la graisse, c'est vraiment un exhausteur de goût et que c'est pour ça que dans toutes les cultures, il y a de la graisse, c'est pas forcément la même, mais c'est aussi quelque chose de très très basique. Et que tu as besoin pour donner du goût, pour exhauster le goût. Voilà, pareil, elle t'explique la chaleur, comment est-ce que tu fais chauffer des aliments, que en fonction de comment tu les fais chauffer, ça donne un résultat différent, pourquoi, avec un peu le background de science, etc., etc. Et c'est vraiment cool parce que c'est le genre de bouquin qui t'aide. Qui t'aide vraiment dans tous les jours plutôt que de dire ah ben voilà tu vas cuisiner le dimanche et tu vas faire comme ça tu vois, donc pour le coup c'est vraiment pour ça que j'ai beaucoup apprécié. En plus en le recommandant pour Niptech, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi ça a tellement bien marché qu'ils en ont fait un documentaire Netflix.
Ouais
c'est ça.
Ah, cool.
Alors je vais peut-être pas le regarder du coup parce que en ayant lu le bouquin je sais pas à quel point c'est la valeur, mais ça peut être aussi quelque chose à recommander. Et la dernière raison pour laquelle il faut le lire, c'est que c'est pas très long, ce qui aussi tu vois, si tu te dis ah c'est cool mais un livre c'est quand même beaucoup d'investissement, ben, c'est pas quelque chose de très long, donc ça peut aussi être un argument. Donc voilà, chaudement recommandé.
Ok, bon, bah, excellent. Et toi, j'ai vu, Matt, que tu nous as aussi rajouté. Alors, je sais pas ce que c'est, si c'est un livre ou quelque chose d'autre.
C'est quelqu'un qui m'a partagé cet article-là, puis qui me fait de plus en plus réfléchir sur l'ignorance motivée. L'ignorance motivée, c'est un truc que j'ai peine à comprendre. Tu sais, tous ces lanceurs d'alerte qui disent attention, faut pas faire quelque chose, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et puis tu fais comme ben, je l'écoute pas. La nature humaine est complexe. Et puis quand t'es avec des décideurs, des gens sur un board, des chefs d'entreprise, tu leur dis faites attention parce que si vous allez là, ça va mal aller. Et qu'ils y vont quand même, mais qu'après ça, 3 ans après, effectivement, la compagnie plante ou que il s'est passé. C'est un truc que je comprends pas chez l'humain, et ça se rapproche de mon travail. C'est-à-dire que il y a l'innovation de rupture. C'est rare où on peut l'avoir. Exemple, le télétravail, on l'a eu. C'était pas une grosse innovation, on en faisait du télétravail, mais ça s'est démocratisé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une crise. L'humain a besoin de beaucoup de crises pour changer, mais le changement itératif, c'est le seul qu'on connaît. Et puis, bien souvent, quand on est parti sur une piste, sur une ligne, quand quelqu'un dit « Ah non, c'est pas la bonne », tu fais « Non, non, je vais continuer, c'est la bonne pour moi, c'est celle que je crois. » Et puis, certains l'appellent ignorance motivée. C'est il y a aussi au niveau historique quand Tigrane s'était fait avait coupé la tête du messager qui disait ben les méchants ils approchent. Il faudrait que tu fasses quelque chose. Non, 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 non. Puis là, il coupe la tête du messager. Ce qui fait que plus personne voulait dire quoi que ce soit au roi parce qu'il avait peur de se faire couper la tête. Et ça, quand tu travailles dans le domaine de la technologie ou de la sécurité, c'est oh ouais, mais ça arrivera pas. Ah ouais, et j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi les gens comme ça sont pas considérés, tu sais, les lanceurs d'alerte au niveau tech, mais au niveau dans la vie en général. Et ça me fait, beaucoup réfléchir. C'est vraiment ma réflexion du moment.
Mais c'est intéressant parce que moi, je suis des fois un peu de l'autre côté de l'argument. Oui. C'est-à-dire que je vis dans un monde de safety, donc de sécurité, et tout est dangereux, toi. Donc, on va dire, quoi que tu fasses, on va dire, mais as-tu pensé, puis on te donne des cas qui sont tellement, alors qui peuvent exister, mais qui sont tellement loin qu'au bout d'un moment, tu dis, mais écoute, mais je suis, oui, ben voilà, mais toi, et donc je comprends que c'est la difficulté de trouver l'équilibre finalement.
Voilà, ouais. voilà. Ben typiquement dans ce que tu dis, tout est risqué en tech, tout est risqué dans la vie en général, tout est risqué. Après ça, ben faut le considérer, jouer l'équilibre, mais tu peux pas ne pas l'écouter ou ignorer, ne pas le considérer dans ta stratégie. Exemple, tu te lances dans une entreprise, on te dit ouais, attention, ton produit dans 2 ans c'est terminé. Tu fais ah non, ça va marcher. Tu sais, faut le considérer, faut que tu aies une stratégie par rapport à ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment pourquoi on considère pas les gars ou les personnes qui te disent à l'avance dans certaines stratégies, on choisit d'emblée de se voiler la face. Typiquement, hein, tu parlais de cuisine, manger du Big Mac chez McDonald's tous les jours, c'est pas bon. Mais on en vend beaucoup du Big Mac. Fumer, c'est pas bon. Mais on a. Alors qu'est-ce qui fait qu'on continue? Ça, c'est très intéressant. Malgré le savoir de continuer à aller dans le trou des fois, c'est un peu curieux.
Ok. Bon, et donc cet article nous offre des pistes de réflexion à défaut de donner toutes les solutions, mais ça te.
C'est ça. On s'en sort pas. C'est vraiment d'être. De communiquer, d'être transparent, d'avoir une culture d'entreprise. Tu sais, l'agilité, on prône l'agilité dans une entreprise. C'est juste souvent un mot dans les entreprises et puis on l'applique pas vraiment. Mais tu sais, quand tu utilises les méthodes agiles, ben t'as des périodes de rencontre pour te dire les vraies choses entre quatre yeux. Et puis ça, je trouve ça super sain. C'est malheureusement pas assez utilisé et puis c'est complètement des fois improductif de le faire. Quand tu sais pas le faire, tu sais, un feedback, c'est pas donné à tout le monde de le donner non plus aussi. C'est ça s'apprend à le donner. D'ailleurs, dans le livre de gestion de Netflix, le gars, quand il a dit, vous pouvez tout me dire, ben, quand les gens ont commencé à y dire des choses, il a fait, ah ouais, mais là, tu me l'as pas dit comme il faut. Je vais te donner une formation pour me le dire comme il faut. Mais lui-même était pas bon non plus pour le dire. Alors, c'est très intéressant, l'humain, dans la technologie en général, là, dans le domaine que je suis. C'est très complexe. Et ça, j'ai hâte qu'il y ait des intelligences artificielles pour nous guider. Ou prendre nos décisions à notre place.
Écoute, moi, je prends. Bon, bah, écoute, Matt, merci infiniment d'avoir été avec nous. Pour les personnes qui ont envie de suivre, de t'entendre plus, comment est-ce qu'on peut faire? Ah, attends, il y a Baptiste, est-ce que tu as quelque chose avant?
Je crois qu'on a oublié quelque chose.
La citation?
Oui.
On a une citation?
Écoute, on peut en trouver une. Attends.
Ah oui, parce que j'ai pas vu. Moi, je suis. On a des notes de l'émission, alors, comme vous le savez. Alors, citation en freestyle de Baptiste.
Comment est-ce qu'on fait en 2024 pour avoir
on
une
demande à Jimini, trouve-moi
alors,
une citation.
C'est parce que c'était plus rapide. Non, je te laisse la lire et la traduire. Je l'ai à peine lu, donc si c'est une hallucination, on saura pourquoi.
Ah ouais. Donc attention, donc c'est vraiment la citation à l'arrache. Il faut savoir que Mike il passe des heures et des heures. Mais là, donc je vais lire en français parce qu'il est trop long en plus. Le libre arbitre n'est pas seulement la liberté de faire ce que l'on veut, mais le courage d'affronter les innombrables choix qui façonnent notre destin. Car c'est dans la tapisserie de nos décisions que nous tissons la trame de notre existence. Mais voilà, mais c'est pour ça que c'est un métier de faire des citations, ouais. Et qu'on ne peut pas le faire à l'arrache à la dernière seconde.
Alors, pour dire, pourquoi est-ce que ça sonne comme ça? Parce que j'ai aussi demandé qui a l'air intelligente. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Qui a l'air intelligente et profonde.
Okay. Oui, alors, voilà. Tu l'as demandé à ton intelligence artificielle, c'est ça? Là.
C'est ça.
Ah, ok. Puis c'est laquelle ton intelligence artificielle qu'on.
Ah, ça, c'est ChatGPT, Vanilla, rien de.
3.5, ouais. Le gratuit, là, ok.
On le sent un peu, hein, on le sent un peu. Mais bon, c'était bien. Et donc, on vous laisse réfléchir.
On a une citation au moins. On n'a pas cassé le studio.
Exactement. On vous laisse là-dessus. Et on revient à où est-ce qu'on peut te trouver, Matt?
Profduweb.com, c'est là où il y a tous les liens qui vont bien. Je mets mes articles de blog, je mets mon lien pour, si vous voulez voir les séries que j'écoute, je les mets directement sur profduweb.com. Allez-y. Ça fait plaisir. Vous pouvez même me joindre directement avec des mails, avec un bon vieux formulaire de mail, parce que ben on veut pas que les données s'éparpillent sur les médias sociaux qui sont américains. Alors vous pouvez directement m'écrire là.
C'est quoi Letterbox?
Letterbox, c'est mon outil que j'utilise pour mettre tous les films que j'ai lus, tous les films que j'ai vus que je trouve intéressants, je les partage là.
Letterbox. Ah ben tu vois, je ne connaissais pas. Ok, ouais, bah cool, très bien, voilà. Bah t'as beaucoup d'icônes hein, où on peut te. D'ailleurs, je savais même pas Blue Sky, je savais même pas. J'ai dû cliquer dessus pour comprendre. Mastodon, t'es partout, quoi. T'es vraiment partout.
Ouais. Tu peux même aller voir mes livres aussi sur Goodreads, là, sur mon lien.
Oh, c'est vachement bien. Chaudement recommandé, profduweb.com pour avoir toutes les infos. Nous, on se retrouve dans 2 semaines avec des nouvelles d'Asie. On se réjouit de voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du monde. Et d'ici là, eh ben, on vous souhaite de bien profiter et de bien vous amuser. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.